Chapitre 40. Les fantômes du bassin octogonal. 200 kilomètres de galeries explorées. C'est le bilan que Valère dressait. Mais plus personne dans la salle Z n'y croyait. Ils ne s'éloignaient désormais presque plus jamais de leur quartier général. Trop fatigués, trop résignés, trop préoccupés par d'autres urgences plus concrètes qu'un laboratoire fantôme. Au-dessus de leur tête, le monde se fissurait. On terrorisait, on emprisonnait, on torturait, on tuait même. Ils ne pouvaient plus demeurer sans réaction. Ils ne pouvaient plus rester terrés comme des lièvres apeurés alors que l'ordre nouveau gagnait en force, enfonçait chaque jour plus profondément ses racines. Et bientôt, après avoir réduit la terre en une boue de larmes et de sang, s'insinuerait dans ses entrailles, jusqu'à eux. Les journées dans la salle Z étaient donc maintenant occupées à programmer la résistance à l'ordre nouveau. Ces longues heures de discussion, alimentées par les effroyables informations rapportées par Zizo, avaient eu pour avantage de ressouder le groupe. Parmi les 9 fugitifs, seul Diamante se tenait le plus souvent en dehors des conversations, errant dans les couloirs, perdu dans ses pensées. Tous les autres rivalisaient d'imagination, même si l'équation paraissait impossible à résoudre, comment, à moins de 10, pouvait-il parvenir à renverser un ordre soutenu par des centaines de prémats, de gardes civils, de promus, corrompus et d'ombrageurs. Au fur et à mesure des débats, plusieurs plans, plus ou moins réalistes, avaient été échafaudés. Agnel rêvait d'une machine volante pour atteindre le donjon et libérer Augénor et les ministres.
« Tu comptes apprivoiser des oies sauvages ?» ironisait Alix.
Elle défendait un plan, a priori plus simple, kidnapper Mordelia. Seul problème, pour des raisons inexpliquées, la reine ne sortait plus de son donjon depuis des semaines, ce qui, faisait justement remarquer Agnel, les ramenait à son plan.
« La meilleure solution, soutenait Valère, est de réveiller l'opinion. Information, communication, éducation. »
Concrètement, le plan de Valère consistait à imprimer des tracts et les distribuer, à écrire des slogans révolutionnaires la nuit sur les murs de Paris, et quand l'opinion serait prête, à organiser des réunions secrètes pour recruter de plus en plus de partisans.
« Ton plan va prendre 50 ans. » commentait Akan. « On sera tous morts avant. Alors, quitte à mourir. »
Sa stratégie était plus radicale, sortir tous ensemble et vendre chèrement leur peau. Un baroud d'honneur. Tombé, certes, mais arme à la main, en défendant leur valeur et leur honneur. À la grande déception d'Akan, le reste de la troupe paraissait peu motivé à l'idée de se sacrifier. À 9 contre 100, 200, 300, leur charge héroïque ressemblerait à une attaque de moucherons contre une horde de sangliers.
« Et si on réveillait les morts ?»
avait tenté Lunella un soir très tard.
« Il paraît que nous sommes 6 millions sous terre. Il n'y a qu'à trouver un moyen de ressusciter les squelettes et on tient notre armée. »
Personne n'osa demander à Lunella des précisions, ignorant si elle était sérieuse ou si elle plaisantait. Finalement, le plan retenu fut celui de Sabi. Elle eut le tact de préciser qu'il était le même que celui de son chéri, se battre pour leur honneur et leur valeur, mais à la nuance près que, au lieu de charger beaux en avant, il devait opter pour la ruse et des actions ciblées, guet-apens pour piéger des ombrageurs isolés, attaque de convois royaux pour redistribuer leur butin aux plus démunis, destruction systématique des drapeaux de la Verte Croix dressés dans la ville, arrachage des cagoules portées par les gardes civils qu'ils captureraient. Les idées fusaient. Action commando, sabotage en tout genre, interventions éclairs. Mais Valère se hâta de les modérer.
« C'est bien beau, la résistance !» expliqua l'historien. « Mais la répression sera plus terrible encore. Pour chaque attentat, Mordelia se vengera. Elle s'en prendra à des innocents, condamnera des coupables imaginaires. » Pour un ombrageur blessé, ce sont 10 ados tirés au hasard qui seront torturés, ou pire. Et alors,
s'agaça Sabi,
tu proposes quoi? De résister, mais en visant avec précision nos cibles. C'est la bataille de l'opinion qu'il faut gagner. N'oubliez pas que presque tout le monde déteste Mordelia. Son ordre nouveau ne repose que sur quelques complices sans pitié tout en haut de la pyramide. Tous les autres se contentent de ne rien dire et de faire semblant de ne rien voir, par peur d'être dénoncés. « Alors résistons !» ordonna Alix en frappant la table de bois avec son poing.
« Seul à jamais !» lança Akan en se levant.
Ils formèrent un cercle et se tinrent tous la main. La peur qui faisait trembler chacun de leurs doigts fut bientôt balayée par la force de leur solidarité. Une seule arme permettait de lutter contre la terreur, l'indifférence et le chacun pour soi, l'amitié.
« Plus jamais seul !»
Zizo participait peu aux discussions sans fin de la salle Z. Il n'avait pas le temps. Depuis que le plan de Sabi avait été activé, la liste du matériel nécessaire aux attaques commando s'était allongée. Cordes, bouteilles de verre, liquide inflammable, chiffons, allumettes. Zizo multipliait les allers-retours entre les rues de Paris et les catacombes, la nuit le plus souvent. La dernière édition de la feuille de chou avait annoncé l'arrivée d'un soleil éclatant juste avant le brutal retour de l'hiver. Un froid glacial s'était brusquement abattu sur Paris, verglaçant les trottoirs, givrant les bourgeons des arbres qui commençaient à percer, comme si l'hiver de fer avait tendu un piège à la nature trop pressée de retrouver sa liberté. Zizo appréciait le verglas. Il pouvait ainsi se déplacer, glissant plus que marchant, sans crainte de laisser des traces de pas derrière lui. Ce matin-là, il attrapa une feuille de chou devant le palace. Des primats continuaient de la distribuer, par habitude, alors que l'hôtel était abandonné depuis des mois. Généralement, il lisait vite le journal, puis le glissait entre sa peau et son pull pour se réchauffer. Dès qu'il saisit la feuille verte, le titre de la une le tétanisa. Exécution du natif Augénor. Esplanade du château de Versailles. Jour de l'équinoxe au coucher du soleil. Spectacle gratuit. Venez nombreux. Malgré lui, Zizo lista dans sa tête tous les motifs de rancune accumulés ces dernières années contre Génor. Le grand cerf l'avait manipulé pour provoquer la bataille de la cour carrée. Il était responsable de la mort de Solario. Il avait réduit en esclavage les Prémas. Autant de crimes que jamais Zizo ne pourrait lui pardonner. Pourtant, il en venait à penser que les manigances de Génor n'étaient rien face à la cruauté de Mordelia. Le nouveau monde se réduisait-il à cela, choisir entre deux assassins? Le froid lui gelait les doigts. Il parcourut rapidement le reste de la feuille de chou, y cherchant vainement la signature de Constel et l'annonce discrète d'un prochain rendez-vous. Depuis leur dernière rencontre au parc Montsouris, la journaliste n'avait signé aucun nouvel article, pas même celui sur les personnages. Avait-elle, elle aussi, été repérée, enfermée, éliminée? Par qui Mordelia aurait-elle pu la remplacer? Les ados sachant écrire aussi bien que Constel n'étaient pas nombreux et étaient sans doute tous, aux yeux de Mordelia, des intellectuels dangereux. La double signature en bas de la feuille de chou le sidéra. L'article racontait avec un ton emphatique la démolition du mausolée de Marie-Lune dans le parc de Versailles, pour le remplacer par un modèle de guillotine perfectionné, mis au point tout spécialement par des savants. L'article était signé « Olympe et Minerva ». Les deux chouchoutes d'Isalis. Deux des élèves singes les plus brillantes et surtout les plus prétentieuses. Ainsi, elles aussi avaient changé de camp. Peu importait si leur ancienne protectrice croupissait dans un cachot du donjon de Vincennes, elle collaborait avec l'ordre nouveau, par peur peut-être, ou plus sûrement, parce que ce travail de rédactrice en chef était bien payé et leur offrait une reconnaissance qu'en temps normal elle n'aurait jamais obtenue. Il glissa avec colère le journal sous son pull et se dirigea vers la place de l'Aiguille. Il devait rapporter du salpêtre et du charbon de bois pour fabriquer de la poudre noire explosive et savait qu'il en trouverait dans les caves du verger abandonné du château. Il avança avec précaution entre les colonnes de la rue de Rivoli, s'approchant tel un fantôme prudent des rosiers entourant le verger. Il longea les ronces, traversa à la vitesse de l'éclair un espace à découvert et se recroquevilla derrière la statue blanche d'un géant barbu, invisible comme toujours. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. À cette heure matinale, et par ce froid de canard, le verger aurait dû être désert. Pourtant, une dizaine de silhouettes, le dos courbé, se baignaient jusqu'aux genoux dans l'eau gelée du grand bassin octogonal, semblant fouiller le fond, mains nues et manches trempées. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien chercher ? Zizo sauta jusqu'à une autre statue, de déesse couronnée, plus proche du bassin. Par-dessus l'épaule de la femme de marbre, il pouvait cette fois parfaitement distinguer les visages. Il reconnut, stupéfait, Leonarda, Estive, Suzy, Cheyenne et quatre autres Lolly Girls. Elles n'étaient habillées que de leur tunique blanche traditionnelle et marchaient lentement dans le bassin glacé. L'eau ne devait pas dépasser les 5 degrés. Sa morsure devait être insupportable. Pourquoi ces filles barbotaient-elles dans cette piscine gelée, robe relevée et jambes nues? Et que cherchaient-elles ainsi au fond du bassin, toutes alignées et progressant mètre par mètre? Une irrésistible colère submergeait Zizo. La vision de ces filles condamnées à un aussi cruel supplice lui était insoutenable. La peau des Lolly Girls virait au bleu, un bleu cadavérique. Les filles ne survivraient pas plus d'une heure à une telle immersion. Ils n'avaient qu'une envie, intervenir. Mais 8 gardes cagoulés, armés de bows aiguisés, surveillaient la pêche mortelle des Lolly Girls. Guidé par un soudain réflexe, Zizo extirpa la feuille de chou de sous son pull. Il repéra aussitôt un article qu'il avait négligé, signé lui aussi par Olympe et Minerva. Il en découvrit le titre, épouvanté. Plus jamais faim. Avant d'en parcourir les premières lignes. Afin d'en finir avec les problèmes de malnutrition dans le monde nouveau, notre premier ministre, Bill, a souhaité promouvoir une idée aussi brillante que prometteuse. Récolter du riz dans Paris. Cette céréale trop oubliée présente l'avantage de pouvoir être récoltée jusqu'à 3 fois par an. Nul n'ignore qu'elle prospère dans l'eau, ni que Paris regorge de bassins, fontaines et canaux aujourd'hui inutilisés. Dès à présent, de premières rizières seront semées dans les jardins du verger, et la délicate mission de repiquage des plants sera confiée aux prisonnières de droit commun, qui trouveront ainsi l'occasion de se réinsérer en œuvrant pour la mission la plus généreuse qui soit, nourrir tous les natifs et natives de l'ordre nouveau. Zizo chiffonna le journal jusqu'à en faire une boule compacte. Il ne parvenait pas à faire redescendre sa rage. Il ne parvenait pas à supporter son impuissance. Sortir de sa cachette pour porter de l'aide aux Lolly Girls revenait à se jeter dans les bras des gardes. Il n'avait plus la force de regarder les visages de Leonarda, Cheyenne et Steve. Crevassés de douleur, leur dos cassé, leurs gestes tremblants de petite vieille, leur effroi chaque fois qu'elle saisissait une nouvelle poignée de tiges vertes avant de les enfoncer à nouveau sous l'eau. Malgré lui, il détourna le regard, maudissant sa lâcheté. 2 chariots non bâchés passaient place de l'aiguille. Le premier, escorté d'une 10aine d'ombrageurs en trot au sol, promenait la gigantesque tête décapitée de la statue de Marie-Lune. Le second remontait les Champs-Élysées en sens inverse, en direction de Versailles, et transportait une guillotine.